Le bourgeois n'a d'autre rêve que de posséder, alors que l'artiste n'a d'autre possession que ses rêves. C'est signé Manu Larsenet.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Manuel Arsenet, qui était notre invité hein, il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de son adaptation hein, de La Route de
Cormier. Sublime.
Qui est sublime. Oui. Vraiment, c'est un véritable chef-d'œuvre. On parle de bande dessinée encore et toujours avec vous, Xavier Van Bugenhout, dans quelques secondes.
Oui, avec l'adaptation du livre de Philippe Sand, Retour à Lemberg, récit qui revient sur la manière dont les termes crime contre l'humanité et génocide sont entrés dans l'histoire. C'est dense, c'est complexe, mais c'est bigrement passionnant.
Et c'est dans quelques secondes. Joseph Skovanek, en fin d'émission, nous parlera d'un personnage qui était très populaire dans les années 50 et 60 au cinéma. C'est Don Camillo. Et puis, il sera aussi question de cinéma ce midi avec notre ami Dick Tomasovic. Et deux hommages, l'un à la comédienne française Micheline Prel, qui nous a quittés il y a quelques jours, l'autre au créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, qui est décédé lui aussi le 1er mars dernier. Soyez tous et toutes les bienvenus d'Entrée sans frapper.
La première, 11h30, 13h, Entrée sans frapper.
Et comme promis, à 12h06, on démarre avec vous, Xavier, et avec cette adaptation du livre de Philippe Sands, Retour à Lemberg, signé Jean-Christophe Camus et Christophe Picot.
Oui, Retour à Lemberg qui était publié en 2017, ça a été un très gros succès, livre traduit dans le monde entier. Philippe Sands, c'est un avocat spécialiste du droit international, et ce livre raconte une histoire de l'avant, pendant, après Seconde Guerre mondiale, en différents lieux, Pologne, Ukraine, Autriche, à Vienne, Londres, États-Unis, Allemagne, avec des histoires personnelles qui rejoignent la grande histoire, et notamment la façon dont les termes génocide et crimes contre l'humanité sont apparus et qui ont pris une importance capitale, notamment dans le procès de Nuremberg, grâce à deux hommes, Raphaël Lemkin et Erich Lauterpacht. Et pourquoi Philippe Sand s'intéresse à cette histoire? Parce que il est avocat de droit international, donc le droit international, l'histoire du droit international, ça m'intéresse un petit peu. Mais parce que il se trouve qu'il est invité à aller faire une conférence à Lviv. Lviv en Ukraine, anciennement Lvov, qui était occupé par les soviétiques, et Lemberg, quand c'était l'Empire austro-hongrois. Et donc vous comprenez déjà que cette ville, elle cristallise quand même une grande partie de l'histoire du XXe siècle en Europe. Ouais. Et en 2010, Philippe Sand donc, est invité à donner une conférence dans la ville de Lviv, donc en Ukraine. Vous avez bien suivi, son propre grand-père, Léon Buchholz, y est né, mais surtout le fameux Erich Lauterpacht dont je vous parlais, et Raphaël Lemkin, donc les deux hommes qui ont introduit les termes crimes contre l'humanité et génocide, ont vécu là aussi, et ils ont été étudiés justement dans cette université.
Voilà, il y a des signes.
Ah oui, et il le découvre au moment où il va faire cette conférence. Donc là, il dit, c'est quand même, il y a une succession de hasards là, et évidemment, on va comprendre que cette ville, elle est marquée par les occupations successives, la guerre, la persécution des Juifs. Ce n'est pas un hasard si deux brillants spécialistes en droit ont travaillé sur ces concepts. Et Philippe Sands, il va faire des recherches sur sa propre histoire, celle de sa famille et celle évidemment des deux personnages principaux. C'est passionnant parce que ça se lit à la fois comme un grand roman, c'est une histoire bouleversante, c'est une histoire, c'est un roman historique aussi, mais c'est éminemment romanesque. J'imaginais pas, je vous avoue, que les questions de droit international pouvaient être à ce point passionnantes. Le travail de recherche.
Et faire le sujet aussi d'une BD.
Oui, complètement. Les droits constitutionnels inaliénables des individus qui vont amener à un modèle de protection des minorités et de se dire qu'en fait, un individu aussi dispose de droits fondamentaux face à un État ou alors à des personnes qui représentent un État et qui agissent de manière à vouloir détruire une minorité. Donc ça, c'était vraiment une avancée majeure et on voit tout ce processus qui va amener à faire entrer ces concepts dans le droit international. Lauterpacht, Erich Lauterpacht, il a fait ses études à Vienne. Lui, juif, dans une ville terriblement antisémite en 1919 où des milliers de nationalistes criaient « Dehors les juifs !» Ça aussi, c'est la force de la BD, c'est de pouvoir représenter ça. On n'a pas d'image, il n'y a pas de vidéo de ça. Mais quand on se retrouve dans une immense salle où il y a des milliers de personnes qui crient leur rage antisémite, ça permet d'avoir aussi de se rendre compte autrement de la réalité historique. C'est un peu miraculeux aussi qu'il ait obtenu son diplôme, parce qu'il ne faut pas croire que l'antisémitisme disparaissait une fois passé les murs d'entrée de l'université. On va suivre son histoire personnelle, celle de Philippe Sand également, sa famille juive, l'exil, les déportations, et puis l'importance du travail juridique, le procès de Nuremberg. La rencontre, ça c'est formidable, avec Niklas Frank. Niklas Frank, c'est le fils de Hans Frank, qui était l'ex-avocat personnel d'Hitler, qui a été condamné à mort, pendu à Nuremberg en 1946. Niklas Frank est un fils évidemment marqué, traumatisé de devoir porter cette histoire sur ses épaules. Il a écrit, c'est un journaliste, cette culpabilité. Une anecdote, il explique, c'est jusqu'à la fin, je révèle, c'est jusqu'à la fin, mais qu'il a une photo de son père après la pendaison et que il voit cette photo en se rassurant qu'il est bien mort. Tellement c'est très 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 fort. À la fin de l'ouvrage, vous allez trouver une cinquantaine de photos qui proviennent des recherches faites par Philippe Sand. Je pense pas qu'elle figure dans le livre original. C'est une adaptation qui peut être jugée un petit peu froide, un peu classique académique, mais l'aspect littéraire prend le dessus. Il y a tellement de personnages que finalement, en fait, le dessin et la mise, le découpage en bande dessinée est un appui aussi non négligeable pour pouvoir se rentrer dedans et pour le rendre accessible. Donc ça s'appelle Retour à Lemberg, c'est l'adaptation du livre de Philippe Sand, donc signé Jean-Christophe Camus et Christophe Picot, c'est aux éditions Delcourt.
Voilà, et on enchaîne avec quelque chose de plus léger, un peu plus feel good, oui. C'est Nos rives partagées de Vincent Zabu et Nicobi.
Oui, alors Vincent Zabu, prix première du roman graphique il y a 3 ans à peine, avec Incroyable, qui était magnifique, hyper poétique, sur le pouvoir de l'imagination d'un gamin un petit peu malmené. Il y a eu Les Ombres aussi, qui est un roman graphique qui est un jeu. Je pense que c'est toujours en cours, un projet d'adaptation en long métrage d'animation. Nicobi, c'est lui qui a signé l'adaptation du Monde de Sophie par Vincent Zabu, ouais. Justement. Il avait fait aussi une BD sur Patrice Lecomte, super bien, sur les coulisses de la préparation d'un film. Et ici, Nos rives partagées, c'est un récit choral avec plusieurs personnages qui habitent un village. Et ce village, c'est le village de Dave, près de Namur. C'est le village de Vincent Zabu,
ouais.
Simplement.
Qui expose d'ailleurs, je pense.
Tout à fait, dans les rues, il y a quelques planches de la bande dessinée qui sont exposées dans les rues du village. Et il y a 6 personnages principaux. Il y a un monsieur d'un certain âge qui a des soucis de santé, il est en fauteuil roulant, il y a son amie Nicole, retraitée, qui est très active dans plein d'associations, elle est en froid avec sa fille. Il y a un prof qui doute de son métier, qui parvient pas à corriger les copies de ses élèves. Il y a un ancien de ces bunches de jeunesse qui va refaire son apparition. Diane qui sort d'un cancer, le fiston passionné de photos animalières et qui va découvrir une autre passion qui se prénomme Jill. Enfin, voilà. C'est plein de petites histoires et en fait, on va vivre le quotidien complètement banal, j'ai envie de dire, et en même temps extraordinaire, ennuyeux par moments, douloureux, léger, formidable de la vie de ces personnages, avec de temps en temps un regard posé par la faune locale, des animaux du coin, sur cette drôle d'espèce que sont les êtres humains, parce qu'en fait, les animaux, ils causent entre eux.
Ah, c'est le contre-champ.
Oui,
ah.
Voilà, il y a un petit contre-champ, et ils commentent le petit théâtre des humains qui se déroule sous leurs yeux. Et Vincent Zabu, dans ses petits bouts de vie racontés, il a une capacité d'amorcer immédiatement un attachement pour ces personnages, avec en fait une certaine économie de moyens, parce qu'il y a finalement assez peu de bavardage, assez peu de textes et de mise en situation. C'est très émouvant, c'est très touchant, c'est très drôle, et le territoire où se déploie toutes ces petites histoires est absolument central. Les ruelles, les parcs, le bois, le bord de Meuse de ce village de Dave. En fait, on a envie de... Moi, je quitte tout, je vais aller habiter à Dave, d'ailleurs. on a un petit peu, pour revenir sur Manu Larsonnet, l'atmosphère de retour à la Terre, ouais. De Manu Larsonnet. Et d'ailleurs, du côté du dessin aussi, il y a quelque part une certaine filiation avec le dessin de Nicobi. Voilà. Et alors, cette expo, effectivement, comme vous le disiez, Eric, de quelques planches de l'album dans les rues de Dave. Hein,
Mais une occasion d'y aller.
Ah, tout à fait, l'occasion d'y aller.
Et peut-être de chercher une maison.
Par exemple. Allez, Nos rives partagées, donc c'est signé Zabu et Nicobi.
Et c'est chez Dargo. Merci beaucoup, Xavier Van Bugenhout. Et tout de suite, on va parler de cinéma et on va rendre 2 hommages, notamment à Micheline Prel.
La première.
Tu vois cette cravate ôtée sans défaire le nœud, c'est lui. Il abandonne sans délier la pire des choses. D'ailleurs, il n'a jamais eu besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on le console de temps en temps, c'est tout.
11h30, 13h.
Je suis une regardeuse. J'aime la transmission des idées, des sentiments par l'image.
Dans 10 ans, toi, tu seras jeune. Moi, je serai vieille. Alors, je ne pourrai que souffrir.
Que vous dire de plus ? Le cinéma est sans aucun doute la plus belle histoire de ma vie.
Entrez sans frapper.
Ah oui, quelle vie. Bonjour Dick Tomasovic.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes notre spécialiste cinéma, mais pas que évidemment, vous êtes aussi chargé de cours, vous ne travaillez pas qu'ici. Hein. Vous êtes aussi chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'Université de Liège. Et aujourd'hui, avec vous, on va rendre deux hommages à des personnalités marquantes et récemment disparues. Nous allons évoquer la carrière, la vie aussi, d'une comédienne française morte plus que centenaire, hein, Micheline Prelle, est décédée il y a quelques jours, quelques semaines. Elle était née en 1922, décédée en 2024. Le calcul est vite fait. Puis juste après, on parlera aussi du mangaka Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, qui est décédé le 1er mars. Mais commençons par Micheline Prelle, qui était une immense star hein, dans les années 30-40 jusqu'aux années 60, comme Michel Morgan et Daniel Darieux d'ailleurs. Elles étaient un petit peu une espèce de trio d'actrices qui ont vécu longtemps et qui ont marqué le cinéma. Parlez-nous de Micheline Prelle, qui fut la doyenne du cinéma français.
Oui, à la fois donc la Benjamine de ce trio que vous venez d'évoquer aux côtés de Daniel Darieux et Michel Morgan, et en même temps en effet la doyenne puisqu'elle s'est éteinte le mercredi 21 février dernier à l'âge donc très respectable de 101 ans. Micheline Prelle, elle n'a peut-être pas la grande filmographie éblouissante quantitativement, qualitativement de Daniel Darieux qui avait été notamment sublimé par Max Ophüls. Ça n'a pas non plus le statut légendaire que Michel Morgan a eu très rapidement avec Le Quai des Brumes par exemple et quelques plans où il y figurait. Mais elle est devenue une vedette très jeune, à 18 ans. Grâce notamment à Belgance, on y reviendra. Elle va le rester durant tout le temps de l'occupation, juste après la libération. Il y aura petit moment de mou et puis elle reprendra une carrière un peu plus vive. Mais ce qui lui a manqué au total, c'est une vraie carrière internationale, la rencontre avec un grand metteur en scène qui aurait fait d'elle son égérie, ou encore la participation à un chef-d'œuvre canonisé de l'histoire du cinéma. Mais cela dit, ce manque-là, Micheline Prelle l'a compensé par une forme d'immense curiosité, je dirais, qui l'a conduite à multiplier vraiment beaucoup d'expériences au cinéma, en télévision, au théâtre, dans des projets souvent inattendu. Hein. Par exemple, à plus de 50 ans, elle se produit en compagnie du fameux grand Magic Circus de Jérôme Savary, un spectacle un peu fou à l'esprit 68 art. C'est quand même assez étonnant pour une figure qui était devenue extrêmement célèbre à ce moment-là, grâce au succès des Saintes Chéries. On a un peu entendu le générique.
Exactement. Aux côtés de Daniel Gélin.
Exactement, oui. Ouais. Et elle va occuper en fait une position assez particulière dans le cinéma français. Un peu entre deux mondes, c'est quelqu'un qui vient des studios de la qualité française, comme on disait, un cinéma très écrit, très classique, auquel elle est donc restée associée pour toujours. Et en même temps, elle a toujours eu le goût de l'innovation, de la jeunesse, de la nouvelle vague qui ne voulait pas vraiment travailler avec elle. Elle était un petit peu entre deux mondes, elle ne voulait pas choisir. Et lorsqu'on va lui demander bien plus tard ce qu'elle pensait du cinéma classique français dans lequel elle a trouvé ses premiers rôles, elle va vraiment signaler la vigueur de ce cinéma-là et encenser une série de cinéastes qui étaient à ce moment-là un peu mal aimés, comme Autant Lara, Allégret, Christian Jacques, Delannoy. Et à côté de ça, quand elle est membre du jury au Festival de Cannes en 59, c'est elle qui récompense, d'un prix de la mise en scène, les 400 coups de François Truffaut. Donc on voit qu'elle a été surtout, dans le fond, une actrice extrêmement libre et qui a fait un nombre incalculable de films, un certain nombre oubliable, mais quand même un parcours très impressionnant.
Oui, justement, parlons de ce parcours et de ses premiers pas, hein, commençons par le début, jeunesse, et début de carrière assez remarqué et assez remarquable.
Oui, alors très vite, en fait, elle se prend de passion pour le cinéma, c'est sa grand-mère qui l'entraîne au cinéma, elle veut faire du théâtre, elle veut faire du cinéma, elle va très vite tenter sa chance lorsqu'on a besoin de jeunes figurantes. Elle a fait un peu de théâtre aux côtés de Serge Reggiani dans une pension à l'école, mais c'est à peu près tout. Et elle est repérée, elle va faire des films aujourd'hui complètement oubliés, je ne les connaissais même pas avant de me plonger dans la filmographie, comme La fessée de Pierre Caron ou Petite peste de Jean de Limur. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, à 18 ans, elle est repérée par Georges Wilhelm Pabst, qui est alors en France, on était en 1939. Il lui confie un rôle important dans Jeune fille en détresse. Et elle joue une pensionnaire qui est délaissée par ses parents, ce qui est un petit peu son rôle dans la vie, en fait. Et cette pensionnaire, elle est nommée Jacqueline Prelle. Et c'est le nom qu'ensuite elle va décider de conserver comme patronyme, comme pseudonyme, comme nom un peu porte-bonheur, qui lui amène vers un autre film. Alors cette fois-ci, c'est Paradis perdu, on est en 1940, d'Abel Gance. Et c'est un drame sentimental tout à fait intéressant, une sorte de mélo un peu avec Gance. Enfin, Gance n'est pas vraiment très à l'aise de mélo, mais il se plie à la règle. Il fait jouer à Micheline Prelle un double rôle. D'une part, elle est Janine, une femme de poilu, c'est-à-dire un soldat de Première Guerre mondiale, donc, hein, qui se tue à la tâche dans une usine à munitions. Elle meurt en mettant au monde la petite Jeannette. Et bien des années plus tard, quand l'histoire reprend, cette Jeannette a grandi et son père, en fait, retrouve en elle les traits de sa mère. Et donc, Micheline Prel va interpréter ces deux rôles, hein, la mère et la fille. Et elle va pouvoir déployer un registre assez impressionnant, une personnalité singulière. Et très vite, en fait, elle va devenir une petite coqueluche à ce moment-là.
Ouais.
D'autant que Michel Morgan part pour les États-Unis, que Daniel Darieux est obligé de tourner pendant l'occupation. En deux mots, son mari est soupçonné d'espionnage, donc elle est à résidence. Et donc, si j'ose dire, sous l'occupation, Micheline Prel a vraiment le champ libre.
Elle devient une valeur sûre, justement, pendant cette occupation.
Oui, c'est vraiment la nouvelle vedette dont le cinéma français avait besoin à cette époque-là. Elle joue avec Marcel L'Herbier, enfin pour Marcel L'Herbier, pour la caméra de Marc Allégret. Beaucoup de films s'enchaînent. Elle vit en fait retranchée en zone libre à Cannes, une certaine partie de cette occupation. Mais elle va toujours refuser de travailler pour les productions de la Continentale, qui est la société mise en place par l'occupant. Elle ne fera pas le fameux voyage à Berlin, celui qu'on appelait le train de la honte, où beaucoup de personnes de l'industrie du cinéma sont allées se compromettre, si je puis dire, auprès des Allemands. Et quand les Alliés vont débarquer, eh bien, elle continue de tourner assez tranquillement. Et elle tourne notamment dans le Falbalas de Jacques Becker, où elle incarne une jeune bourgeoise, qui s'amourache un peu de couturier parisien. Et elle le fait avec beaucoup d'ironie et en même temps de fragilité. Elle continue à développer son personnage. Boule de Suif en 1945 sort de Christian Jacques dans l'atmosphère vraiment patriotique du moment, et on voit que malgré un physique plutôt fluet, Micheline Prel arrive à tenir des rôles très forts, et dans Boule de Suif, une prostituée qui affronte l'occupant.
Alors vous disiez, elle a pas fait des grands films, en même temps elle en a fait des très très grands, notamment en 47 Le Diable au corps avec un certain Gérard Philippe, et c'est un film qui va faire scandale à l'époque.
Ah oui, on lui reproche carrément d'avoir porté atteinte au moral de la nation. Pour avoir fait quoi ? Pour avoir finalement incarné une femme fiancée à un soldat qui est mobilisé sur le front. Et pendant qu'il est mobilisé sur ce front, la jeune femme s'éprend passionnément d'un lycéen. Alors, c'est une adaptation de Jean Orange et Pierre Bosse, qui sont les grands scénaristes de l'époque, du fameux roman de Raymond Radiguet, qui était déjà un roman extrêmement scandaleux et un peu autobiographique. En vérité, le film, c'est la volonté même de l'actrice. C'est-à-dire que Jean Cocteau avait offert ce roman à Micheline Prel, qui l'avait beaucoup apprécié, et lorsque son producteur cherche à lui trouver une adaptation qui pourrait la mettre en valeur, c'est elle qui propose Le Diable au corps, et c'est elle qui suggère aussi Gérard Philippe, dont la gloire commence un petit peu à poindre. Les deux acteurs ont le même âge, ils ont 24 ans à peu près à ce moment-là. Gérard Philippe essaie de se faire passer pour un lycéen. C'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'il fait très jeune. Dans le film, il prétend avoir autour de 17 ans. En vérité, dans le roman, le personnage n'en a que 15. Le film, à sa sortie, est terriblement mal aimé par les moralistes. Il est aussi un peu mal aimé sur la longueur par les cinéphiles. On va reprocher une certaine pesanteur à la mise en scène d'Otan Lara, une méchanceté un peu dans son film. Et c'est vrai que c'est un film qui va devenir un peu le symbole de vraiment cette tradition de la qualité qui va être beaucoup dénoncée par la nouvelle vague. Et en vérité, c'est très injuste parce que je l'ai revu là, justement, pour préparer cette séquence. Et j'avais oublié à quel point ce film est vraiment malaisant, mais intense, avec un travail de lumière, des mouvements d'appareil splendides et une férocité. Une misogynie, je dirais, mais qui renvoie vraiment à la cruauté inouïe de l'époque. Ça gagne à être revu. Et Micheline Prel, il joue avec beaucoup, beaucoup d'intelligence et de passion son personnage. Et le scandale qui est venu avec le film, Micheline Prel ne l'a jamais regretté. C'est un personnage avec lequel elle a vraiment fait corps et dont elle était particulièrement fière.
Et ça reste une date importante, évidemment, dans sa filmographie. On va écouter un petit extrait de ce Diable au corps.
Comme tu es calme.
Parce que je sais ce qu'il va nous arriver.
Dis-le-moi.
Tu me quitteras, François.
Tu es folle. Pourquoi veux-tu que je te quitte?
Je ne le veux pas. Mais tu me quitteras parce que je suis trop vieille pour toi.
Oui, trop vieille. Beaucoup trop vieille.
Dans 10 ans, toi, tu seras jeune. Moi, je serai vieille. Alors, je ne pourrai que souffrir. Si tu me quittes, je mourrai. Si tu restes, ce sera pour me faire plaisir. Et je serai malheureuse de devoir sacrifier ton bonheur. Peut-être même je t'en voudrais. Non,
Non, je ne t'en voudrais pas.
Voilà, c'est la scène de la promenade en barque hein, avec Gérard Philippe et Micheline Brel, qui a tenté, comme les autres, une petite aventure aux États-Unis, mais qui n'a pas marché, qui a tourné court.
Non, alors c'est un exil un peu à rebours des autres, hein, puisque Gabin, Morgan sont partis durant la Seconde Guerre mondiale et ils reviennent. Et c'est le moment où elle s'en va.
Ouais.
Elle s'en va, bon, pour différentes raisons professionnelles, mais aussi des raisons amoureuses, en fait. Elle va se marier là-bas avec Bill Marshall, acteur, producteur, qui avait été précédemment, d'ailleurs, le mari de Michel Morgan, c'est un peu étrange.
Et qui sera le papa de sa fille, Tony Marshall, la réalisatrice.
Exactement, ouais. Voilà. Avec qui Micheline Brel travaillera d'ailleurs à la fin de sa carrière. À Hollywood, elle ne fait pas grand-chose. Elle va travailler avec Fritz Lang, mais son propre aveu sur le film le moins intéressant de Fritz Lang, Guérillas. Et c'est vrai que c'est un film que je ne connais pas du tout, par exemple, donc il n'est pas resté vraiment dans les annales. Elle doit faire l'affaire Cicéron pour Mankiewicz, mais en fait, c'est le moment où elle tombe précisément enceinte de Tony Marshall et donc elle laisse le rôle à Daniel Darieux, en fait. Et donc, même si elle croise beaucoup d'acteurs et beaucoup de cinéastes importants, en vérité, elle n'y fait pas grand-chose. Et après 7 ans de contrat avec la Fox, elle revient en France et elle s'aperçoit à ce moment-là qu'on l'a un peu oubliée, qu'elle n'existe plus. Elle n'a pas d'explication, mais c'est comme ça. Et donc, elle vit là un moment un peu plus difficile. Elle va quand même avoir, alors c'est un peu injuste quand elle fait ses mémoires, parce qu'elle aura quand même de très beaux rôles, notamment chez Jean Grémillon, chez Guitry, qui va beaucoup l'employer. Mais c'est vrai qu'elle est un peu débordée par une nouvelle génération d'acteurs, d'actrices qui arrivent, Romy Schneider, Brigitte Bardot. Et finalement, elle va redevenir une immense vedette en France, mais par la télévision.
Ouais, grâce à la télé, c'est assez moderne finalement, comme parcours pour l'époque. En effet, entre 65 et 1970, il y a Sainte Chérie, qui est une série de la télévision avec Daniel Gélin et avec Micheline Brel.
Ouais, série imaginée par Nicole de Buron, réalisée par Jean Becker, et qui est une formidable satire de la transformation des mœurs françaises pendant ces fameuses 30 glorieuses. C'est le portrait d'une famille moyenne, assez satirique. Et il faut le dire que la série doit énormément à Micheline Brel, qui tient à la perfection un petit ton caustique en permanence dans série. Alors par la suite, effectivement, elle va essayer de continuer sa carrière au cinéma. La modernité d'une nouvelle vague ne voudra pas d'elle, mais une autre modernité, un peu plus tardivement, la prendra un peu sous ses ailes. Elle tournera pour Jacques Demy, pour Claude Chabrol, pour Alain René.
Ouais.
Voilà. Donc, ce qui est vraiment remarquable quand on fait un peu le bilan de sa carrière.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours de comédienne un petit peu atypique quand même de Micheline Brel?
Absolument. D'abord, elle a toujours joué ses personnages avec beaucoup d'autorité. On l'a un peu entendu là dans le son qu'on a passé. Il n'y a pas de minauderie dans son jeu.
Non.
Il n'y a pas aussi de distance pour créer du désir et de grands mystères. Elle disait que finalement le cinéma le faisait pour elle, notamment le noir et blanc. Elle aimait beaucoup le noir et blanc qui créait le mystère autour des acteurs-actrices. Et elle disait pour elle finalement, le jeu doit être le plus simple et le plus sincère possible. Et elle avait cette diction absolument parfaite, on l'a entendu techniquement, mais comme ensoleillée de l'intérieur, je dirais, qui lui donne toujours un pouvoir narratif. Elle a beaucoup chanté aussi. Et alors c'est intéressant parce que dans le fond, elle chante un peu comme elle parle un peu comme elle chante. Il y a quelque chose d'assez rayonnant et en même temps de très franc, de très sincère, qui en faisait finalement une parfaite compagne de Jacques Français, qui a vu avec lui, Micheline Brel, vieillir tout au long de ces décennies.
Ouais.
C'est quand même une carrière assez impressionnante.
Assez impressionnante et qu'elle a menée quasiment jusqu'à la fin, vous l'avez dit, Tony Marshall, sa fille, l'a fait tourner, mais aussi un cinéaste belge, Frédéric Socher, l'avait casté dans deux de ses films, si ma mémoire est bonne. Merci
beaucoup. Notamment, dernière apparition, c'est dans un documentaire de Socher, je pense, qui s'appelle « Je veux être actrice ».
Exactement.
Magnifique déclaration.
Vous restez avec nous, Dick. Après la pub, on va parler d'un tout autre parcours, un parcours à la fois de mangaka, mais aussi de cinéma et de littérature et de bande dessinée. On va évoquer la mémoire de Akira Toriyama.
La première.
Bonjour tout le monde.
Sangoku.
Salut l'artiste.
Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles.
11h30, 13h.
Je deviendrai le maître avec les 7 boules de cristal.
Yo, et tu es ce qu'il est là. Tu es ce que tu es là.
Entrez sans frapper.
Voilà, c'est une émission très diversifiée aujourd'hui, hein, Dick Tomasovitch.
C'est pas tous les jours qu'on passe ces sons-là dans votre émission.
Exactement. Après Micheline Prel, nous allons évoquer la vie, la carrière, mais aussi l'importance, hein, de son œuvre. C'est Akira Toriyama, qui était né en 1955 et qui nous a quitté le 1er mars dernier. Ça a été un choc, le décès de Akira Toriyama.
Oui, parce qu'on, évidemment, il est reconnu comme une grande figure géniale, hein, du milieu, mais une figure très discrète aussi. Et c'est vrai que sa mort à 68 ans a pris un peu tout le monde par surprise. Ça avait été annoncé sur le site officiel de Dragon Ball, et puis très vite, le Bird Studio, qui est le studio que lui-même avait créé, précisé que Toriyama avait été enterré dans l'intimité familiale et ouais. avait imploré les millions de fans de n'envoyer surtout ni aucun cadeau, ni aucune fleur, ni même aucun message. Et il y avait dans cette annonce, hein, le dessin d'un petit bonhomme qui porte un masque à gaz et qui était devenu, en fait, avec les années, l'avatar même de l'auteur, cette superstar de la bande dessinée. Très vite, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommages après sa disparition. De son éditeur, évidemment, différentes revues de manga, et puis de ses héritiers, hein, Eiichiro Oda ou Masashi Kishimoto, donc les gens de One Piece ou de Naruto,
bien sûr, ouais.
sans qui évidemment rien n'aurait existé,
enfin, voilà,
qui reconnaissent évidemment tout ce qu'ils doivent à l'auteur de Dragon Ball.
Ouais.
Mais au-delà de ces hommages du milieu du manga, moi ce qui m'a troublé, c'est sur les réseaux sociaux, le nombre de parutions en hommage au créateur. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu un petit Sangoku triste ou consolateur sur son petit nuage volant en 48 heures.
Ouais.
Et c'était assez incroyable parce qu'en fait, des gens dont je ne me doutais pas du tout qu'ils avaient pu un jour lire ou voir un épisode de Dragon Ball, des connaissances à qui je n'aurais même moi-même jamais osé dire que j'avais beaucoup regardé ces dessins animés
ouais.
quand j'étais adolescent, ont revendiqué les choses. Et j'ai d'abord pensé à quelque chose de très, très générationnel, en un mot, hein, la fameuse génération Club Dorothée, en fait, hein,
ouais.
Puisque Dragon Ball était diffusé entre 88 et 96. Et bon, c'était un peu le haut de la vague. On se rappelle que 10 ans plus tôt, en 78, Dorothée déjà avait diffusé les fameux Goldorak, qui ouais. ont créé cette fameuse génération Goldorak des enfants qui.
Elle a beaucoup fait Dorothée hein, pour mais cette oui. génération. Ouais.
Elle a vraiment fait découvrir des animés ouais. japonais et à une génération qui n'allait jamais tout à fait s'en remettre. Il faut bien le dire. C'était le début d'une véritable invasion, comme on l'a beaucoup écrit à l'époque,
ouais.
De dessins animés japonais. Et puis un peu plus tard, finalement, de cette industrie du manga qui est devenue si forte aujourd'hui.
Ouais, c'est une révolution.
Aussi.
Hein.
Et voilà. Et c'est, je dirais que vraiment le gros de la vague, c'est la génération Dragon Ball, hein, qui fait que aujourd'hui même Dragon Ball a une popularité qu'on n'arrive même plus à estimer. C'est-à-dire que les chiffres de vente de Dragon Ball ont atteint de tels sommets qu'on ne fait plus que des estimations. Et donc, j'ai retrouvé les données de 2016 qui évoquaient 160 millions d'exemplaires vendus seulement au Japon.
Ouais.
Et quasiment autant dans le reste du monde.
Évidemment.
30 millions en France. Enfin, c'est,
ouais, c'est
le deuxième manga le plus vendu de tous les temps derrière One Piece. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bah, c'est devenu transgénérationnel aussi. Et que c'est des choses qu'on transmet non plus seulement à son petit frère, ce qui était mon cas, mais désormais à ses enfants, hein, bien sûr. Et peut-être sans doute à nos petits-enfants bientôt.
Alors, Dragon Ball, c'est peut-être aussi le personnage qui cache la forêt parce qu'il a fait d'autres choses. Quels ont été les premiers pas de mangaka d'Akira Toriyama, indique.
Alors, ce sont des pas qui ne sont pas simples et pas faciles. Il est très vite passionné de dessin, mais il fait une école de design, mais ça lui dit pas trop de continuer ses études. Il veut travailler assez rapidement. Il se lance, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, qui ne trouvent pas tout de suite leur voie dans la publicité. Bon, en vérité, il y est beaucoup trop cancre. Il n'arrive jamais à l'heure. Enfin bon, ça ne va jamais. Donc il démissionne. Ses parents le soutiennent comme ils le peuvent. Et il décide de faire des concours, hein, organisés par les fameux magazines de prépublication de manga. Et là, il postule, et toujours rien. Et puis finalement, à force d'endurance, il se fait repérer par l'éditeur d'un grand magazine, magazine Jump, en l'occurrence, qui va le prendre un peu sous son aile, mais qui va le faire travailler pendant un ou deux ans, selon les témoignages de Lavary. En tout cas, il va remettre plus de 500-600 planches avant que l'éditeur accepte qu'il puisse publier quelque chose dans le magazine. Et ce récit, il est devenu quasi mythologique. Il est important parce que Toriyama, on le voit bien, s'est forgé dans une espèce de persévérance face à l'adversité. Et en vérité, c'est la grande valeur des séries publiées par Jump et de toutes les séries shonen, comme on dit, hein, cette ligne éditoriale de manga qui vise un public plutôt d'adolescents masculins et qui est censé vraiment mettre en évidence, hein, des qualités de persistance, de courage. Et donc, on fait un récit quasi mythologique autour même de Toriyama. Alors, c'est vrai que ces magazines reçoivent beaucoup de candidatures. et donc c'est très compétitif. Finalement, on est en 1978, il parvient enfin à glisser sa première histoire dans les pages du magazine. C'est un récit assez bref et loufoque, Wonder Island, une sorte de parodie de Tarzan. Et là, immédiatement, c'est un bide. Et donc, voilà, les choses ne restent pas faciles. L'explosion, elle arrive tardivement, elle arrive en 1980, avec une série qui s'appelle Dr. Slump, qui est une comédie très joyeuse, centrée sur une petite fille robot, maladroite, espiègle, curieuse, et son créateur, qui est le Dr. Slump, un petit peu pervers. Et c'est une sorte de variation sur la fameuse série de l'immense Tezuka et ouais. Astro Boy, évidemment. Humour burlesque, sens stupéfiant de l'exagération, avec un dessin assez élégant, assez précis, assez drôle. Et là, c'est le succès immédiat, d'autant que la série touche aussi le public féminin. Ça va lui apporter très vite la gloire, la reconnaissance. Il devient, en 84, 4 ans plus tard, il est considéré déjà comme une superstar.
Ouais, à plus ou moins 30 ans, quoi.
Ah oui, absolument. Ouais. Et puis, il est porté par l'adaptation très réussie ici à la télévision de sa série entre 80 et 86. C'est la grande époque de ce qu'on va appeler le media mix, hein, qui s'empare du Japon, c'est-à-dire vraiment la manière dont le manga et la Japanimation vont trouver de nouvelles synergies très, très, en format win-win, si je puis dire. Et Toriyama devient même un modèle à suivre pour toute l'industrie.
Alors, ça, ce sont les débuts un peu laborieux, on va dire, surtout pour la rencontre avec le succès. Ouais. Et alors, après, arrive Dragon Ball.
Oui,
racontez-nous
voilà.
Ça.
Alors, pour Slump, qui est un immense succès, il travaille énormément et il a envie de sortir un petit peu de Second Valley. Il commence à chercher l'idée pour une autre série. Alors, il se trouve que Toriyama est passionné des films de Jackie Chan, cet immense acteur des films d'arts martiaux de Hong Kong, avec ce sens de la cascade, mais aussi du burlesque. Et donc, il a envie de créer quelque chose qui aura un peu cette tonalité-là. Là, et il fait un court manga du nom de Dragon Boy, c'est la première version, ouais. Avec un jeune guerrier, une princesse et un petit dragon. Et puis le succès de cette petite histoire le pousse à développer les choses. Il va chercher l'inspiration dans un conte chinois tao-bouddhiste qui est la pérégrination vers l'ouest, qu'on connaît aussi en français comme le singe pèlerin ou le roi singe, puisque le héros principal est un singe immortel. Et en fait, ce roman est connu de longue date au Japon, mais c'est surtout un des grands classiques de la littérature chinoise. Et Toriyama n'est pas le premier à être inspiré par ce conte, puisque le grand Isamu Tezuka avait déjà sorti la légende de Son Goku en 1952, où il y avait déjà un petit personnage avec une queue de singe, un nuage volant, un bâton ouais. télescopique. Mais en vérité, c'est cet univers-là de base qui va être complètement redéveloppé par Toriyama, en personnalisant toute une série de figures et en laissant courir une imagination complètement débridée. Entre 84 et 95, il va dessiner 42 volumes, 519 chapitres de l'histoire, très vite adaptés en jeu vidéo et bien sûr en adaptation animé, immense, immense succès qui fera même que par la suite Toriyama ne voudra pas faire d'autres séries. Il va produire parfois des one-shots et des courts récits et puis il va surtout superviser les différents projets autour de cette franchise.
Ouais, d'où vient la puissance en fait de cette série qui est un feuilleton et, ouais. Et que l'on suit forcément et, ouais. qui évolue durant plusieurs années.
C'est ça. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu un seul épisode, je résume très rapidement de quoi il s'agit. On a Son Goku qui est un petit garçon formidable. Il a une queue de singe, pourquoi pas. Mais il a surtout une force extraordinaire et un bon cœur, hein. Il est d'une gentillesse extrême. Il vit tout seul après la mort de son grand-père adoptif et il rencontre une fille de la ville, lui qui habite vraiment la forêt la plus reculée, une jeune fille de la ville, Bulma, très intelligente, un peu impulsive, qui cherche des boules de cristal. Et si elle réunit cette boule de cristal, elle fait apparaître Shenron, le grand dragon sacré. Et Son Goku va l'aider dans sa quête. Il va rencontrer une série de personnages assez singuliers. Et en vérité, le début de la série ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que comme c'est Toriyama, les gens lisent parce qu'ils veulent savoir quelle est la grande création de celui qui a créé Dr. Slump. Mais très vite, les ventes baissent et Toriyama comprend que c'est parce que son héros est peut-être un peu trop innocent, ouais. un peu trop naïf. Et il va décider de le développer à travers des arcs narratifs qui portent sur l'entraînement et le combat. Il va créer des tournois, des affrontements. Et le personnage va grandir face à ses rivaux. Et c'est là que deux choses vont vraiment être importantes dans le développement de la saga. D'une part, c'est des développements familiaux, c'est-à-dire que la tribu va s'étoffer, des couples vont se faire, Son Goku va devenir papa, il y aura des enfants qui auront leurs propres aventures, et la galerie des personnages est incroyable et foisonnante, avec de tout. Il y a des humains, des aliens, des cyborgs, des divinités, des dragons, des Saiyans, qui sont des guerriers de l'espace. On apprendra rétrospectivement que Goku est l'un d'eux. Voilà, chacun a son cœur qui penche pour différents personnages, Tortue Géniale, Yamcha, Vegeta. Moi, mes préférés les plus cools, c'était toujours la cyborg C-18 et Piccolo, qu'on appelait en français Satan Petit Cœur.
Ouais.
Et j'adore ce nom, rien que pour le nom, c'est mon préféré. Et puis l'autre grand élément, c'est les combats qui deviennent de plus en plus homériques, qui inventent des pouvoirs dans une surenchère complètement folle, avec des mutations. On partait de petites choses de kung-fu et on finit avec des duels intergalactiques entre des dieux capables de détruire des planètes. Et donc Goku va évoluer sous un grand récit feuilletonesque. Évidemment, chaque arc de ce récit est animé par un grand conflit.
Mais c'est ça qui est intéressant finalement dans cette saga Dragon Ball, c'est tout l'imaginaire que cette saga va développer, et c'est un imaginaire qui est issu de la fantasy quelque part.
Oui, mais c'est une immense éponge, ça vient en effet de contes asiatiques séculaires, on l'a dit, mais on fait évoluer les personnages dans une sorte de planète Terre qui n'est pas tout à fait la nôtre. Il y a d'autres lieux fantastiques, il y a des lieux mystiques, on va visiter le séjour des morts, l'au-delà, Son Goku va mourir plusieurs fois, il ira visiter le purgatoire, le paradis, l'enfer, mais aussi des planètes de science-fiction comme la planète Namek. En fait, Toriyama, il absorbe tout. Le folklore japonais, le folklore chinois, les représentations eschatologiques occidentales, il fait vraiment feu de tout bois. Il y a la tradition paillarde aussi du manga, qui est quand même bien cultivée à travers des jeux de mots, notamment sur la nourriture, mais aussi sur des grivoiseries. Il y en a quantité dans la série. Il y a un antimilitarisme assez drôle avec la fameuse armée du Robot Rouge qui est sans cesse mise en déroute et ridiculisée. Et puis il y a évidemment ces grandes fictions d'arts martiaux qui sont revisitées.
C'est-à-dire ?
Alors, en vérité, Dragon Ball, c'est un article à la littérature de jeunesse et le manga de sport. Et le manga de sport, c'est très important depuis les années 30 au Japon. D'abord dans les buts de propagande, en fait. Il s'agissait d'inculquer des qualités guerrières aux jeunes lecteurs et de montrer des héros exemplaires pour se dépasser soi-même et aller jusqu'au sacrifice. Sangoku est l'héritier de cela, qu'il va mettre en œuvre à travers une série de combats. Et c'est vrai que ces combats viennent évidemment du cinéma d'arts martiaux de Hong Kong que l'auteur aimait particulièrement, les parades de Kung Fu. Et il va se laisser aller dans cet imaginaire à déployer des combats de plus en plus fabuleux, avec deux choses visuellement dingues. D'une part, des décors qui seront démolis avec des dommages collatéraux invraisemblables. Ouais. Un imaginaire de destruction dingue, qui va d'ailleurs rebondir ensuite dans les films de super-héros hollywoodiens des dernières années. Et d'autre part, les corps eux-mêmes qui vont évoluer, se muscler, devenir autre chose, être entourés d'énergie.
Avec des pouvoirs.
Voilà. Ouais. Et le fameux, je savais que vous alliez m'en parler, le fameux Kamehameha.
Ouais.
Je sais que vous l'essayez chez vous souvent, Eric. qui consiste à essayer de faire sortir de son corps une énergie incroyable à travers ses poings, une boule d'énergie qui est en fait digne du feu nucléaire.
Ouais.
Et on voit bien qu'il y a une forme de réappropriation du fameux traumatisme japonais, s'il en est, Hiroshima, Nagasaki, bien sûr, de pouvoir avoir des héros qui dominent le feu nucléaire et qui le font sortir de leurs mains. Et ça permet de faire une lecture assez passionnante de Dragon Ball, qui est une série extrêmement riche en fin de compte.
Alors, on n'en a pas encore parlé, Dick, et on va terminer avec cela, évidemment, c'est parce que c'est aussi du dessin.
Oui.
Et Akira Toriyama a une force du trait qui est quand même assez particulière.
Oui, il y a une puissance tout à fait évocatrice de son dessin. Je dirais de ses dessins, puisque en fait, il n'y a pas que les personnages qui muent tout au long de la saga, il y a son dessin, et chaque génération de lecteurs a finalement connu sa version de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, et puis etc. Alors, il y a le dessin très rond, très cartoon, très gracile, très joyeux des premiers tomes, qui se complexifie aussi avec des machines tout à fait étonnantes, parce que Toriyama aimait beaucoup dessiner des trucs mécaniques en plus. Et puis, cette série évolue, plus les personnages deviennent forts, plus ils deviennent carrés, musculeux, avec des chevelures en porc-épic là, qui explosent comme des formidables brasiers, et avec un imaginaire, on l'a dit, tout à fait nucléaire de la destruction. Et donc ça change beaucoup, évidemment, au fur et à mesure, mais quelle que soit l'époque, il y a une véritable force de frappe, si je peux dire, de ces dessins, une sorte de fausse simplicité graphique aussi. Vous savez, c'est un peu comme Peyo, on a l'impression que les schtroumpfs, c'est facile, mais quand on dessine un, il ne ressemble jamais à un schtroumpf correct.
Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traits,
voilà,
évidemment.
C'est ça.
Et si on se trompe dans un trait, c'est foutu.
C'est ça. Chaque Son Goku que je dessine dessiné ressemblait quand même pas tellement à Son Goku dans le fond. Et donc ce qui résiste tout au long de l'évolution de ce dessin, c'est le génie de la simplicité.
Voilà. Et puis puisque vous m'avez percé un jour, on va proposer à nos auditeurs un tout petit extrait sonore, évidemment, de cette série Dragon Ball avec le fameux Kamehameha. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. Pour terminer, Dick, peut-être un mot sur est-ce qu'il vaut mieux revoir la série, lire les bouquins, à votre avis ?
Oh ben, les deux, mon capitaine.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est toujours un plaisir, évidemment, de se replonger dans les dessins de Toriyama même. Alors, on verra que les dessins animés sont très fidèles à son esthétique. Donc, on reste dans ce graphiquement les mêmes choses. Mais c'est vrai que, le plaisir de feuilleter un manga n'a pas tout fait le même plaisir que la série. Il y a quand même, c'est vrai que la série, il faut être patient aussi, puisqu'on est dans des séries extrêmement feuilletonesques.
Avec, ça prend du temps.
Un récit déployé. Et donc, parfois, on a envie d'avancer un petit peu. Et donc, de ce côté-là, c'est peut-être plus facile de feuilleter.
Merci beaucoup, Dick Tomasovic, pour avoir parlé de ce Akira Toriyama qui nous a quitté, hélas, le 1er mars dernier. À bientôt.
À bientôt.
Entrez sans frapper sur la première.
11h30, 13h.
Et on termine cette émission avec Joseph Skovanek. Bonjour, Joseph.
Bonjour à tout le monde. Il y a les grands courants artistiques ou littéraires dans l'histoire, et puis il y a les inclassables. Et parmi les inclassables, on a les urticants, des artistes, des œuvres dont on ne sait que faire, quelle attitude adopter, mais qui restent malgré tout incontournables. Et tel pourrait être le cas de Giovanni Nogareschi, un nom qui semble inconnu, mais dont l'œuvre phare a marqué des générations de lecteurs puis de cinéphiles, à savoir bien entendu Don Camillo. Oui, le bizarre curé d'une petite paroisse de l'après-guerre en Italie qui a des rapports tendus avec le politicien communiste du coin, mais qui continue de le croiser sans relâche, d'où mille et une anecdotes du quotidien. Alors, certaines choses sont totalement désuètes et tout à fait datées dans l'histoire de Don Camillo. Non, les curés ne ressemblent plus du tout à Don Camillo. Ils n'interviennent pas dans les actes de la vie quotidienne systématiquement, et le Parti communiste non plus d'ailleurs de nos jours. Ce qui reste, c'est l'étrange fonctionnement mental de Don Camillo. Pour le dire clairement, à lire les différents tomes de ses aventures, notamment le premier, on hésite entre le qualifier de grand enfant immature et de lui coller l'étiquette de handicap mental. Don Camillo n'est ni un bon curé au sens où il suivrait les préceptes de l'Église, ni un mauvais curé au sens où il serait par exemple débauché ou voleur. Il est tout simplement inclassable. Lorsqu'il veut frapper l'élu communiste local et que Jésus lui crie horrifié depuis son crucifix que les mains du prêtre doivent bénir et non pas frapper, eh bien Don Camillo décide de donner un coup de pied au communiste. Un enfant autiste n'aurait pas fait autre chose. D'ailleurs, Don Camillo n'a qu'une très mauvaise compréhension des codes sociaux et des hiérarchies sociales. Il obéit parfaitement même, mais il comprend toujours les choses à sa manière et il a toujours les mêmes idées fixes avec les communistes, mais ça on l'a compris. D'où le désespoir de Jésus, qui de toute évidence a du mal à comprendre l'autisme. On pourrait donner des anecdotes à l'infini, mais ce serait recopier ici l'histoire de Don Camillo, autant le lire en vrai. Il est plus intéressant de remarquer que dans l'entourage de Don Camillo, beaucoup de personnes ont les mêmes curiosités mentales. Par exemple, Christina, l'ancienne enseignante du village, qui elle aussi a du mal avec les hiérarchies et conventions sociales, sans parler tout bonnement du narrateur. Les premières pages du livre sont clairement dans un style enfantin d'une naïveté touchante. Mais peut-être qu'était-ce non pas un effet de style, mais la vérité de vie de Giovanni Nogareschi. Je ne prétends pas connaître les secrets de sa biographie qui est obscure par endroits, mais toutes sortes de détails sont plus que troublants. Il a fait des années de prison, non pas pour des vols ou des assassinats, mais pour outrage au chef de l'État, plus précisément au dirigeant de la République italienne pourtant démocratique. Disons que pour résumer, Don Camillo, c'est une forme d'autoportrait de l'auteur. Avec un dernier petit point remarquable, dans l'histoire, Don Camillo habite dans un, je cite, « petit monde ». Petit monde, c'est le titre commun des ouvrages de notre héros. Petit monde, cela peut désigner un village atypique, village Schtroumpf par exemple, ou, si je puis me permettre de le dire avec mes mots, autistan. Merci beaucoup, très bonne journée.
Merci beaucoup Joseph Skovanek, et à très bientôt. Ceci termine Entrée sans frapper pour aujourd'hui, pour cette semaine aussi. Merci à Marie-Agnès Baupin, merci à Eve Jans, merci à vous de nous avoir suivis. Nous commencerons la semaine prochaine avec le prix Première 2024, Sébastien Bailly, un cascadeur professionnel, Olivier Bisbach. Dans quelques instants, les informations de 13h avec Marie-Laure de Kerckhove. Bon après-midi.
La Première, l'esprit clair.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.